être sur Rust, il y a un doute qui veut quelque chose, soyez, suivre l'application que vous pouvez d'avoir aussi. Merci pour votre je vous remercie pour votre ministère à moi ce matin par votre présence. Je ne sais pas, mais il est très encourageant pour vous. Pour moi, c'est très encourageant de voir que je ne suis pas seul dans ce monde. Je ne suis pas la seule personne qui croit que Jésus vit aujourd'hui, qui règne aujourd'hui, un jour qu'il reviendra. Et il va me prendre avec lui pour vivre à jamais dans le paradis. Et bon, merci. Merci. Et je ne sais pas, nous, bon, je sais, vous connaissez que nous vivons dans un monde turbulent. Ouais? Je pense que c'était comme ça depuis la chute de l'homme, mais maintenant on a des rébellions partout. Bon, chaque génération veut faire sa volonté. Soit les musulmans, soit les Français. Hein. Et j'étais frappé tout de suite après l'attentat contre Charlie Hebdo. Il y avait ici en France, si je me souviens bien, il y avait ce désir de continuer, de transmettre, on peut dire, les valeurs de la France, n'est-ce pas, à travers les écoles française. Bon, c'est une bonne idée, hein? Si les valeurs sont bonnes et justes. Mais nous sommes tous intéressés par cette transmission des valeurs, soit la famille, soit la France, soit l'Église. Et aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la transmission de nos valeurs chrétiennes ou la vision chrétienne face à l'emprise de la société incroyante. Et ce sujet se trouve dans le moyen de la famille, parce que c'est bien sûr la famille chrétienne qui doit transmettre les valeurs chrétiennes, la vision biblique. Mais ce n'est pas que la famille qui est appelée à la transmission de la foi, n'est-ce pas? Pouvez-vous penser à un passage qui dise que chaque chrétien doit transmettre la foi chrétienne? Est-ce qu'il y a un passage qui dit pas chaque chrétien doit transmettre, mais qui implique au moins, qui indique que chaque chrétien est touché par cette transmission? Oui, merci, Matthieu 28. Oui, chaque chrétien doit faire des disciples. La transmission des valeurs bibliques, c'est de faire des disciples. Oui, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, il faut arrêter maintenant. Oui, parce que ça ne vaut pas la peine de continuer si vous n'êtes pas d'accord à la base. Et il y a d'autres passages qui parlent de chaque membre d'une église locale qui contribue envers la transmission du message biblique, des valeurs chrétiennes et la vision du monde biblique. Et je veux dire tout de suite ce matin que oui, la famille doit transmettre la vision biblique. Mais chaque chrétien aussi doit participer dans cette transmission. Et surtout, chaque membre d'une église locale doit s'engager pour transmettre la vision biblique. Et quelle est la vision biblique? On peut le résumer comme ça. Dieu existe, il a créé tout. Il est donc digne de notre louange et obéissance. Mais nous, nous sommes en rébellion contre lui, par nature. Nous ne voulons pas suivre sa loi. Mais lui, au lieu de nous abandonner, il a envoyé son fils Jésus pour sauver son peuple, c'est-à-dire pour réétablir les relations proches et intimes entre lui et son peuple. Et maintenant, ceux qui sont son peuple sont ceux qui disent, oui, Dieu, notre Père, tu as le droit de dire comment nous devons vivre. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus que nous ne sommes pas punis. Mais grâce à Jésus, avec gratitude, nous voulons faire ta volonté et pas la nôtre. Et chaque génération transmet cette idée, Dieu est le Créateur, Dieu est le Sauveur, nous sommes les créatures et c'est à nous d'obéir à Dieu. Ça, c'est nos valeurs. Ce n'est pas nous qui décident. Mais la question pour nous aujourd'hui, c'est comment transmettre cette idée qui va à l'encontre de la valeur des idées du monde qui disent « Nous sommes chefs. C'est nous qui décidons comment nous allons vivre. Comment transmettre la vision biblique à une autre génération face à l'emprise de la société incroyable. » Bon, ce matin, nous allons considérer un passage qui pourrait être assez inconnu. Jérémie chapitre 35. D'accord? Jérémie 35. Jérémie se trouve dans la première partie de la Bible. Si vous trouvez les psaumes, qui est assez au milieu de la Bible, après les psaumes, c'est les proverbes, l'Ecclésiaste, les cantiques, Ésaïe, et après Jérémie 35. Et j'ai demandé à Amy de le lire pour nous, parce que c'est plus plaisible pour vous, je pense, s'il fait et si je ne fais pas. Amy, est-ce que tu peux le lire pour nous?
Écriture du prophète Jérémie, chapitre 35. Lisons la parole de Dieu. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs au-dessus de la chambre de Masséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, « Buvez du vin !» Mais ils répondirent, « Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison. » Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point des maisons pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem.
Excusez-moi, Eli. Bon, je viens de noter l'horaire. Bon, on va arrêter notre lecture là et on va regarder ce passage. Merci. Parce que je ne veux pas prêcher jusqu'à 13 heures. Donc, on doit commencer. Bon, Jérémie n'a pas mis ce chapitre dans son contexte chronologique, d'accord? C'est-à-dire, bon, selon une frise de chronologie, 35 ne suit pas 34, d'accord? En fait, ce qui s'est passé au chapitre 35 s'est passé au moins 10 ans avant ce qui s'est passé en chapitre 34. Il faut poser la question, donc, pourquoi Jérémie, bon, en suivant Dieu, a mis chapitre 35 après 34? Parce qu'il ne veut pas nous donner une histoire après ça, après ça, après ça. Bon, la fonction de ce chapitre, c'est de montrer la désobéissance illogique d'Israël contre Dieu. Et il le fait en mettant cette famille devant leurs yeux. Cette famille qui a obéi, un homme qui a vécu plus que 250 ans avant. Pourquoi cette famille obéit à leur père, mais vous, Israël, vous n'obéissez pas à moi, le Dieu. Ça, c'est le contexte, hein, du passage. Et ce passage n'est pas écrit pour nous dire il ne faut pas boire du vin, il ne faut pas habiter dans les maisons, et il ne faut pas s'aimer les champs. Ce n'est pas le but de ce chapitre, donc. D'accord, nous sommes d'accord, je pense. Parce que nous habitons tous, je pense, dans les maisons. Hein, et pas des temps. Voilà. Ce n'était pas le but à cette époque-là. Il voulait montrer une famille qui a bien transmis une vision. Pendant 400 années. Et c'était une vision qui allait à l'encontre des habitudes de leur société. Et pour nous ce matin, je pense, ça nous vaut la peine pour voir comment ils ont fait pendant 400 années. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de cette famille? J'espère oui. J'espère oui. Voilà, ça c'est le contexte. Et maintenant, je vais essayer de partager avec vous 6 principes de transmission que j'ai pris de ce passage. Voilà. 6 principes de la transmission d'une vision. Rappelons-nous, nous sommes en train de poser la question. Comment transmettre une vision biblique à la génération qui vient? D'accord? Comment le faire? Premièrement, d'accord? Et pour les enfants, c'est le premier truc sur les 6 principes de la transmission. D'accord? La transmission d'une vision exige une communication précise et perpétuelle. La transmission d'une vision exige une communication précise et perpétuelle. Bon, il va de soi, quand même, que la communication est nécessaire pour la transmission de la vision biblique. Mais quelle sorte de communication? Bon, regardez le passage pour voir 2 caractéristiques de la communication qui rendent possible la transmission d'une vision. D'abord, avez-vous noté que ces hommes citent les mots d'un homme qui a vécu il y a 250 ans avant? Ils ont dit, parce que Jonadab, il a dit. Pouvez-vous citer les mots d'un homme ou une femme qui a vécu il y a 250 ans? Pourquoi pas? Parce que ce n'était pas communiqué à vous. Comment ces hommes-là pouvaient-ils citer les mots de Jonadab sans qu'ils les aient entendus répéter à plusieurs reprises? Pouvons-nous, j'ai déjà posé la question, mais si oui, si nous pouvons peut-être citer les mots de la paix du 18 juin, hein, qui sont écrits 100 mètres d'ici. Si nous pouvons citer ces mots, c'était parce que quelqu'un a pris le temps pour nous faire mémoriser et répéter à plusieurs reprises. Notons aussi dans ce passage que ces hommes n'offraient pas l'idée générale de ce que Jonadab a dit. Ils donnaient les détails. Il a dit ça, ça et ça, précisément. Ça nous montre que la communication était précise. Même s'il est évident à la majorité présente que la communication est nécessaire pour la transmission d'une vision biblique, c'est-à-dire, nous savons qu'il faut parler pour transmettre une vision. Nous devons donc prendre un moment pour examiner nos vies. Est-ce que nous sommes en train de communiquer précisément une vision biblique? Journalement. Il y a plusieurs semaines, j'étais chez la pharmacie ici à My Place. Et pendant que j'entendais la pharmacienne, j'ai entendu par hasard une cassière dit à son client, « Bon, j'aime parler à mon père, mais il ne dit rien. Il ne parle pas. » Et elle a dit avec un air de résignation. Elle voulait qu'il parle. Il faut poser cette question. Père, mère, chrétien, sommes-nous comme le père de cette pauvre fille? Avons-nous oublié que la transmission d'une vision biblique n'existe pas sans la communication précise? Parlons-nous à la génération prochaine et de quoi nous parlons? Nous devons parler avec précision de la vision biblique si nous voulons transmettre cette vision. Notons ensuite que ces hommes sont de la troisième génération, je pense, et ils étaient en train d'enseigner la prochaine génération et parler de leurs filles et leurs fils, verset 8. Et ça nous montre que la communication était perpétuelle, c'est-à-dire la communication continuait entre les générations. La vision biblique n'a pas une date d'expiration. Voilà. On regarde chaque jour, oui, c'est bon aujourd'hui, d'accord, je vais prendre. Mais la Bible, la vision biblique, n'a pas une date d'expiration. On ne peut pas dire, voilà, on est arrivé maintenant à 2016. C'est fini pour la Bible. Maintenant, c'est nous qui décidons. Non, la Bible continue à parler avec l'autorité aujourd'hui. Son autorité est toujours valide. Mais donc, le fait que la communication soit nécessaire pour la transmission d'une vision biblique est évident, n'est-ce pas? Bon, on le sait, mais est-ce qu'on le fait? Ça, c'est la question pour nous. Il est évident aussi que la communication verbale ne suffit pas pour transmettre une vision biblique. Il faut aussi, et ça c'est le deuxième principe, il faut aussi une pratique constante d'une vision face à la tentation de la lâcher. La transmission d'une vision exige une pratique constante face à la tentation de la lâcher. Notez d'abord, si vous pouvez regarder verset 6, leur réponse était définitive. Ils ont dit, nous ne buvons pas. Point. Et j'ai été frappé par la nature définitive de leur réponse. Ils ne disaient pas « Excusez-nous, mais nous ne buvons pas normalement. » Ils ne disaient pas « Merci, mais pas aujourd'hui. » Ils disaient « Décidément, nous ne buvons pas. » C'est fini. Il n'y a pas de question. Leur pratique était sûre. Leur famille ne prenait pas d'alcool. Ensuite, constater leur obéissance complète. Versets 8 à 10, leur pratique définitive impliquée par l'affirmation du verset 6 est supportée par versets 8 à 10 où disait « Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rechab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, ils ont obligé leurs fils et filles de suivre leur chemin. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. » Ils ont dit, nous obéissons complètement. Ouais. En résumé. Mais si nous sommes tentés de nous méfier de leur affirmation, hein, écoutons la déclaration de Dieu au verset 18. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements, et fait tout ce que vous a prescrit. Devant Dieu, ils ont obéi. Ils avaient une pratique constante, génération après génération. Les grands-pères, les grands-mères, les parents, les mères, les pères, les fils, les filles, les petits-fils, les petites-filles. C'était constant. Mais comme nous savons tous, nos actions parlent plus fortement que nos paroles, n'est-ce pas? Une vision ne peut pas être transmise si la pratique va à l'encontre de nos paroles. Quelle est la question logique? Comment sommes-nous en train de vivre d'une manière qui s'accorde avec la vision biblique que nous prêchons? Que nous enseignons. Bon, avec un désir de nous aider à bien diagnostiquer la constance de notre pratique, je vous pose quelques questions fixées sur trois domaines de la vie. Quelles sont nos relations? La génération prochaine note-t-elle que nos relations sont en accord avec la vision biblique? Selon leur perception, notre relation avec Jésus est-elle importante? Selon elle, est-ce que mes relations tournent autour du royaume de Dieu ou du sport, d'un loisir, ce que je préfère, des films, de la musique? Ou à leur avis, est-ce que la vision biblique jouit un rôle très insignifiant dans mes relations? C'est des questions qu'il faut poser. Ça, c'est nos relations. Ce sont nos relations. Quelles sont nos routines? Nous faisons systématiquement ce que nous estimons important, n'est-ce pas? Si j'y vais chez le dentiste, c'est parce que je prise mes dents. Ouais. Et si j'y vais une fois ou deux fois par an, c'est parce que je prise fortement mes dents. Nos routines, qu'est-ce qu'elles révèlent à la génération prochaine? Révèlent-elles que Dieu et sa révélation sont au centre de nos vies? Ou révèlent-elles que nous aimons des vêtements, le divertissement, le sport, etc., etc.? Et troisièmement, quels sont nos rituels? Par exemple, quel est notre rituel à table? Ouais. On a eu une amie d'une famille incroyante chez nous, et pour déjeuner. Hein. Et c'est intéressant, c'est fort intéressant. Elle suppose qu'on reçoit et qu'on commence à manger. Mais nous supposons quelque chose de différent. Quels sont notre rituel quand nous sommes à table? Remercions-nous Dieu pour le repas? Parlons-nous de Dieu et son œuvre dans le monde? Quel est notre rituel le dimanche? Avons-nous des rituels qui reflètent que Dieu et sa volonté sont au centre de nos vies? Ou est-ce que le dimanche, c'est pour nous? Ça montre la différence entre les visions. Hein? Et nous pouvons parler du jour du Seigneur toute la journée, mais si nous agissons d'une manière contraire à l'encontre de nos routines, nos rituels, ça n'aide pas trop la transmission de notre vision. Voilà. Nos pratiques révèlent notre vision du monde. Est-elle constante avec ce que nous disons? Il faut parler, il faut vivre. Troisièmement, la transmission d'une vision exige le développement d'un sens d'appartenance ou un sentiment de solidarité. Nous vivons en France, il faut la solidarité, n'est-ce pas? D'abord, notez avec moi, je vais le lire parce qu'on n'a pas du temps suffisant, mais notez avec moi la répétition du langage familial. Ils utilisent le titre « Père » en connexion avec leur vision familiale au verset 6, 8, 10, 14, 16 et 18. Au verset 14, Dieu utilise le titre « Fils » au verset 14 en référence aux descendants de Jonadab. C'est-à-dire, Jonadab, il est notre père. Et nous sommes ses fils et ses filles. Quand on utilise des termes comme père et fils, on communique une idée de communauté. Et cette idée de solidarité est supportée par les adjectifs possessifs aussi dans ce passage. Il dit « notre père » verset 6, « notre père » verset 8, « notre père » verset 10, « ses fils » verset 14, « leur père » verset 14, leur père, verset 16, et votre père, verset 18. Pourquoi ça c'est important? Ça communique un sentiment profond de la solidarité. Et ne parlez pas de cet homme qui a vécu il y a 250 ans. Oui, Jonadab, il a dit ça, mais pour nous, ça ne fait rien. Hein? Il dit, notre père, Jonadab. Nous sommes ses fils. Il y a un lien entre nous, malgré les générations. Il faut un sentiment de solidarité. Ils appartenaient à un groupe qui avait en commun une vision. Et cette appartenance à la vision est la raison pour laquelle les hommes pouvaient répondre « Nous ne buvons pas. » Et quelque chose qui est intéressant, c'est noter la réciprocité présente dans ce passage. Au verset 19, on n'a pas lu, mais verset 19, « Jonadab ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. » Pourquoi cette bénédiction pour Jonadab? Parce que Jonadab était un homme juste et important et... Non. Le contexte dit « C'est parce que vous obéissez à ces paroles, il ne manquerait jamais un descendant devant moi. » C'est-à-dire, cet homme est béni parce que ses fils et ses filles, deux et trois générations après, ont obéissé. Obéi. Vous voyez là, réciprocité entre les générations, la solidarité de cette famille, de leur vision. Et il faut créer dans notre Église et dans nos familles cette idée. Nous sommes unis par cette vision biblique. Vous appartenez pas au monde, vous appartenez à la famille de Dieu. Et nous devons noter donc que développer un sens d'appartenance à une vision crée inévitablement un sens de ne pas appartenir à tout ce qui réside hors de la vision. Bon, ça c'est simple et logique, mais souvent nous voulons appartenir à deux équipes différentes. Ouais. Oui, je suis avec Jésus, mais quand même je veux être avec vous aussi. Ça ne marche pas. Si on partage une vision biblique, on ne peut pas faire partie à une vision non biblique. Parce que les deux sont contre les deux. contradictoire, merci. Vous savez ce que je veux dire. Hein? C'est un manque de vocabulaire. Mais vous voyez, hein? Dès qu'on crée cet sentiment d'appartenance, de solidarité avec la famille de Dieu, on crée aussi un fossé entre nous et ceux qui ne sont pas avec nous. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Dans la famille, dans l'Église, c'est pas mauvais si nous créons cette distinction. On ne dit pas nous sommes meilleurs que. On ne dit pas qu'ils ne sont pas bienvenus. On dit seulement les deux visions sont contradictoires. Et nous faisons partie de cette vision. Voulons-nous transmettre une vision biblique dans la famille, père et mère? Il faut développer cette idée d'appartenance, de solidarité. Nous, en tant qu'une famille, nous avec l'Église locale, nous avec l'Église dans le monde et nous avec l'Église de l'histoire aussi. Nous partageons la vérité. Et c'est la vérité qui est au centre de notre sentiment de solidarité. On ne partage pas des goûts, des loisirs, des cultures, des habitudes. On partage la vérité. Dieu qui a envoyé Jésus, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité, qui vit et qui reviendra. Ce sont les faits, les données. Ça, c'est au centre de notre vision biblique. Nous devons développer cette vision et un sentiment de solidarité entre nous. Voilà, ça c'est le troisième principe. Quatrième mot, la transmission du vision exige une application sage de la vision. Voilà. Application sage, je pense que c'est le blanc, le vide. Versets 2 et 11, c'est un peu ironique, mais ces hommes qui n'habitaient pas dans les maisons, ils se trouvaient où? Dans une ville. Et dans une ville, on trouve quoi? Des maisons. Ouais. Et on peut dire, ils obéissaient à tout, sauf le fait qu'ils étaient dans une maison à Jérusalem. Mais au verset 11, il explique, c'est à cause de menaces des armées que nous trouvons maintenant dans les maisons. Et je trouve ici un exemple de l'application sage d'un principe. Voilà. Imaginez que l'un des pères, il a dit non! Nous n'habitons jamais dans les maisons. Nous resterons ici dans les champs et si les armées viennent, ils viennent et nous allons périr. Est-ce que ça, c'est sage? Est-ce que ça s'est exigé par leur vision? Non. Parce que la vision, ce n'était pas que les maisons sont méchantes et injustes. C'était, on garde notre vie nomade. Nos vies nomades. Parce que nous ne voulons pas penser que nous appartiennent à cette époque-là, à cette terre. Nous cherchons, comme a fait Abraham, la terre qui viendra, la ville céleste. Et quand ils ont dit, d'accord, pour notre sécurité, on cherche la protection des murs de Jérusalem, ce n'était pas l'abandonnement de leur vision, c'était l'application sage. Ils gardaient toujours cette idée, nous sommes des nomades. Mais pour l'instant, nous nous trouvons ici à Jérusalem. Pour nous, hein, ce n'est pas bon de changer pour changer. D'accord? Et en tant que chrétiens, nous sommes des conservateurs dans le monde. Mais la transmission d'une vision parle nécessairement du conservatisme. Et le conservatisme résiste par nature le changement. D'accord? On est d'accord? Mais parfois, il résiste le changement d'une manière bête. D'accord? On ne peut pas transmettre une vision si nous ne sommes pas prêts à réfléchir. Comment appliquer cette vision quand les situations exigent un changement? Et pour cela, il faut la sagesse de Dieu et le leadership du Saint-Esprit. Voilà. Il faut une application sage. Et cinquièmement, il faut aussi, la transmission d'une vision exige le rappel de la rémunération de la vision. D'accord? Personne ne tient une vision s'il pense, bon, ça ne fait rien. Il n'y a pas de rémunération. Hein? S'il n'y a pas de rémunération, pourquoi le faire? Même pour les chrétiens, nous croyons parce que nous croyons que Dieu va nous rémunérer avec la vie éternelle. Il faut une vision exige le rappel de la rémunération. R-E-M-U-N-E, accent comme ça, R-A-T-I-O-N. Voilà. Je ne suis pas enseignant français. Aigu, je pense. Mais peut-être l'autre, je ne sais pas. Voilà, Jonadab fait le lien entre leur obéissance à la vision et leur jouissance d'une vie dans le pays de promesse. Est-ce que vous avez constaté? Afin que vous viviez longtemps dans le pays. Ce n'est pas une promesse d'une vie longue. Hein? C'est une promesse du fait que cette famille ne sera pas exterminée. La famille continuera cause de leur obéissance. Et pour nous, dans nos familles, est-ce que nous sommes toujours en train de dire « N'oublions pas la vie à venir. Il y aura une rémunération. » Maintenant, d'accord, si Dieu nous bénit, il nous bénit, et bon, j'aime être béni, hein? Mais le salut nous attend. La nouvelle terre viendra. Jésus régnera sur un monde parfait. Et ça, c'est notre rémunération. La prochaine génération a besoin d'entendre souvent cette vérité. Voilà, pour transmettre une vision, il faut le rappel de la rémunération. Pourquoi travailler? Pourquoi vivre comme ça? Parce qu'il y aura une rémunération. Et sixièmement, et en conclusion, Jusqu'à ce point, nous avons considéré la responsabilité de ceux qui transmettent une vision. Voilà. Il faut la communication précise. Il faut une pratique constante. Il faut le développement de cette idée d'appartenance. Il faut aussi l'application sage. Et il faut le rappel à la rémunération. Mais aussi, il faut... Bon, la transmission a besoin de deux parties, n'est-ce pas? Ceux qui transmettent et ceux qui reçoivent. Ouais, c'est vrai. Quel est nécessaire aussi pour la transmission d'une vision? Et je parle maintenant aux enfants et à la prochaine génération, la génération prochaine. Il faut simplement un cœur disposé à l'obéissance. Je pense que ça, c'est un cœur disposé à l'obéissance. Ou on peut dire la soumission. Et la soumission va à l'encontre de notre âge, de notre époque, de notre société. Jamais la soumission, je vais faire ce que je pense. Et franchement, ça, c'est la communication de notre société. Même dans les églises, dans les écoles. Vous avez le droit de décider ce que vous allez faire. N'écoutez pas à vos parents. Bon, je sais, c'est pas tout comme ça. Je dis pas que les enseignants sont là pour subverser les parents. Je sais, c'est pas ça. Mais notre époque, en général, c'est cette idée, la rébellion. Et bon, la France insoumise, je pense que ça, c'est l'un des personnes qui va être le prochain président. Hein. La France insoumise. Mais Dieu, il nous appelle d'être les personnes soumises à la vision biblique. Et je sais que c'est difficile parce que j'étais jeune un jour. Hein? Peut-être que c'est difficile pour vous de le croire, mais j'étais jeune. Et j'avais des pensées. Mais j'avais aussi une génération avant moi. Mes parents, mes professeurs. Il faut décider, nous suivrons qui? Nous-mêmes ou ceux qui sont donnés par Dieu d'être nos pères, nos frères, nos mères et nos dirigeants? Et ça soulève beaucoup de questions, je sais. Qu'est-ce qu'il faut faire si on a une famille où, bon, surtout si vous êtes un adolescent et vous avez des parents qui ne sont pas constants, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà, il faut suivre le Seigneur. La réponse des parents imparfaits comme moi, qui ne sont pas constants comme moi, n'est pas d'abandonner la vision biblique, c'est de suivre la vision biblique. C'est d'aimer Jésus, même si votre père ou votre mère ou vos anciens ne sont pas parfaits, ne sont pas constants, parce qu'ils ne peuvent pas être. Voilà. Comment transmettre la vision biblique? C'est pas compliqué, mais la transmission exige la mort à soi. Il faut communiquer précisément et perpétuellement. Il faut vivre d'une manière constante avec la vision. Il faut développer un sens d'appartenance avec Jésus et son Église. Il faut rappeler souvent de la rémunération à venir. Il faut aussi, cinquièmement, appliquer sagement la vision à la vie présente, et il faut aussi avoir un cœur obéissant, disposé à l'obéissance. Si nous voulons transmettre la vision biblique, j'espère que ce passage peut nous aider par la grâce de Dieu. On va chanter ensemble maintenant une bénédiction. C'est le cantique 200, je pense. 200.